Plongeons dans la catéchèse du jour en la confiant à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes dans cette série de catéchèses sur l'Église avec Simon-Pierre. Nous avons vu les débuts, son appel, le début de sa vie qui a été complètement chamboulée. Et je vais reprendre là où je me suis arrêté. Et nous allons poursuivre. On prend le temps. C'est ça qui est merveilleux à la radio, c'est qu'on peut prendre son temps, vous voyez. On n'est pas dans le zapping et dans des petits formats courts qui entretiennent le zapping. Nous prenons le temps de plonger dans la vie, dans le mystère de Pierre, nous le verrons, car Pierre, au-delà de sa personne personnelle, c'est un mystère. Car Pierre aura son successeur permanent. Bon. Pour l'heure, je vous rappelle qu'à un moment donné, ils arrivent dans la région de Césarée et de Philippe, en haut à droite de vos cartes, si vous avez la carte de la Terre Sainte chez vous. Jésus qui pose cette merveilleuse question à ses disciples, au dire des gens, quel fils de l'homme ? Des gens. Un sondage d'opinion. Ils dirent pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Pour vous, mais pour vous, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Et alors juste après, la promesse, tu es Pierre sur cette pierre, etc. Nous y reviendrons. Voilà que Simon-Pierre réalise que en lui, il y a le Père qui l'enseigne. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que nous sommes chacun capax Dei. Nous sommes capables d'être dociles à la volonté du Père, au dire du Père, d'entendre la voix du Père, non pas entendre les voix dans le sens « j'entends des voix », vous voyez, c'est pas ça. Mais de nous laisser conduire, nous sommes capables d'être doux, heureux les doux, heureux ceux qui se mettent à l'école de mon Père, ceux-là, ils viennent à moi, dit Jésus. Et voilà que Simon est capable, c'est une révélation pour lui, tu es heureux. Parce que quand tu écoutes ton cœur qui se laisse inspirer par mon Père, tu proclames la vérité. Tu proclames que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Juste après, frères et sœurs, écoutez bien. Il va se passer autre chose, c'est ça qui est merveilleux. Dans toute la Bible et dans l'Évangile en particulier, à dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour, ressuscité. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera point. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre « Va-t'en derrière moi, Satan. Scandale, tu es pour moi. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors là, c'est un choc. Deux minutes avant, il est inspiré par le Père du ciel, notre Simon-Pierre. Deux minutes après, il réagit non seulement humainement, mais sans le savoir, Simon-Pierre. En fait, il se fait le porte-parole d'une pensée satanique. Ça alors, c'est fou ça. Ah ben non, bien sûr, il n'est pas possédé, c'est pas ça dont il s'agit. Mais dire à Jésus, Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera point. Ça ne vient pas de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'où? Ah ben d'un homme, hein, de Simon. Oui, mais d'où parles-tu, Simon, quand tu dis ça? Ben, j'aime Jésus et je veux pas qu'il souffre. Et quand Jésus me dit qu'il va souffrir beaucoup de la part des anciens, quelle horreur! Des grands prêtres, quelle horreur! Des grands prêtres, des scribes, mais enfin, et être tué. Mais moi, j'aime Jésus, je veux pas qu'il meure. Scandale, tu es pour moi. Pierre d'achoppement. Autrement dit, Simon, quand je dis quelque chose, ne réagis pas primo primi comme ça. Ne réagis pas avec ton côté affectivo, sympathique, mais bon, tu vois, avec ta sensibilité. Ben, je sais bien que tu m'aimes, on verra ça plus tard, tout à l'heure, oui, oui. Je sais bien, tu sais bien que je t'aime, Seigneur, oui. Mais quand Jésus parle, normalement, la parole de Dieu inscrit en nous un silence. Lorsqu'elle est reçue dans la bonne terre, comment Marie, la bonne terre, par excellence, comment Marie recevrait cette parole, a reçu cette parole? Je dois m'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué. Et le troisième jour, ressuscité. Marie gardait et retenait tous ces événements, toutes ces paroles dans son cœur et les méditait dans son cœur. Quand Marie reçoit la parole, les paroles de Jésus, ça inscrit en elle un silence. Pourquoi? Parce que c'est un silence d'adhésion. Quand j'adhère, ça me rend silencieux. Pourquoi? Parce que c'est une parole d'amour, c'est une parole de révélation. Jésus est en train de révéler un mystère très très grand. Alors, voilà. Quand on réagit avec sa sensibilité, attention, la parole de Dieu n'est pas faite pour recevoir une réaction épidermique. Non. La parole de Dieu est donnée pour tomber dans un cœur profond qui accueille dans le silence d'une adhésion d'amour. Alors, c'est très riche en enseignement pour nous, vous comprenez, frères et sœurs, parce que à chaque fois que Simon met le pied à côté, on comprend tellement. Et puis on l'aime bien, ce Simon-Pierre. Quelle éducation! On aimerait sauver ce qu'on aime. On aimerait que ce qu'on aime ne souffre pas. Et c'est tout à fait légitime. Tout à fait normal. Réaction normale, humaine, naturelle, compréhensible. Je pense qu'il y a quelque chose de ça dans l'humanité sainte de Jésus à l'égard de Marie et à l'égard de chacun d'entre nous. Dans sa volonté humaine, car Jésus a une volonté humaine et divine. À Gethsémani, lorsqu'il dit « Non pas ma volonté, mais que cette coupe passe loin de moi, Père, mais non pas ma volonté, mais la tienne, quelle est cette coupe ?» Eh bien, je pense qu'il y a une goutte dans cette coupe qui nous concerne. Il aimerait bien, Jésus, qu'on ne souffre pas trop, que Marie ne souffre pas trop. Mais la volonté du Père, c'est la chose la plus importante de notre vie. C'est la nourriture la plus importante. Plus que la parole de Dieu, plus que l'Eucharistie, si je peux m'exprimer ainsi. La volonté du Père. Car si nous sommes privés de l'Eucharistie, par un biais ou par un autre, persécution, fermeture des cultes, des lieux de culte, ou autre, nous pouvons toujours nous nourrir de la volonté de Dieu. C'est cette nourriture, une des trois nourritures, la nourriture, parmi les trois nourritures du chrétien, qui surplombe les deux autres. La volonté du Père. Jésus vit tellement de la volonté du Père, il accomplit tellement la volonté du Père, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même les jours fériés. Lorsqu'il rencontre un Simon qui lui dit « Mais non, Dieu t'en préserve. » Non, 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 Simon. Là, c'est Satan qui pense comme ça. Parce que Satan, il aimerait bien que tu ne sois pas sauvé. Or, moi, je veux que tu sois sauvé. Et le salut passe par ma croix, par ma passion, par ma résurrection, par ma mort et ma résurrection. Et alors, devant cette parole qui invite au silence, qui invite à une adhésion aimante, silencieuse, il y a toujours en filigrane Marie qui est là, qui nous emmène dans l'adhésion à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, toujours. Jésus ne parle jamais dans le vide. Jamais. Pourquoi ? Parce que même s'il rencontre des terrains épineux, rocailleux, remplis de soucis, d'inquiétudes, de convoitises, il y a toujours une bonne terre. Il y a toujours Marie et quelques autres qui accueillent. Dieu ne peut pas parler dans le vide. Quand Dieu parle, il faut qu'il y ait un auditeur, au moins un. Un auditeur qui accueille tout, sans trier, sans dire « bon, ça, ça me va, ça, ça me va pas ». Sans dire « cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et puis ses disciples s'en allaient. Aujourd'hui, ce jour-là, beaucoup de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Il y a toujours Marie. Et l'adhésion de Marie est comme un appel d'air formidable dans nos cœurs pour nous aider, nous aussi, à adhérer sans rechigner, sans murmure. 40 ans, cette génération m'a déçu. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Alors, il a dû être quand même bousculé, Simon, par cette parole de Jésus, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi un scandale, une pierre d'achoppement. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, celles des hommes. » Alors il a dû sortir de là un peu groggy. Un coup, il est sous l'inspiration du Père, un coup sous l'inspiration du Satan. Ben, il est en chemin, le Simon. Et puis Jésus attrape sa main et lui dit « Allez, viens. D'ailleurs, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra. Mais qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. » D'ailleurs, un peu plus loin, dans ce même évangile de saint Matthieu, on saute quelques chapitres, Pierre prend la parole et lui dit « Mais voici que nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, dans la régénération. Quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura laissé maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou champ, à cause de mon nom, recevra bien davantage et aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et de derniers seront premiers. Il y a toujours cette invitation à suivre. Et nous le savons, frères et sœurs, suivre Jésus, ça veut dire ne pas se suivre soi-même. Suivre Jésus, ça veut dire le suivre dans ses pensées, dans ses actes, dans sa volonté, dans son amour, dans ses regards, dans son agir, dans sa volonté, dans l'accomplissement de la volonté divine. Il est l'amen du Père. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans ses gestes, dans ses paroles, dans toute sa vie, non-stop. Alors celui qui vient, qui reçoit Jésus, qui accueille Jésus, entre dans la vie éternelle. Celui qui ne croit pas reste dans la mort, c'est-à-dire avec lui-même, avec sa petite vie, ses petites pensées, son petit agir, ses petites démarches, ses inquiétudes, sa petite vie, quoi. Son petit confort. Son box. Nous sommes des chevaux, comme des chevaux, c'est une comparaison, hein. Fait pour vivre en liberté, mais on préfère le box. Six jours après, il y a la transfiguration, au cours de laquelle Pierre manifeste encore une fois qu'il est, pardonnez-moi l'expression, un peu à côté de la plaque. Six jours après, nous dit l'Écriture, dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 17, et les parallèles dans nos Bibles, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre, alors, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. » On dirait un chat qui ronronne, hein ?« Si tu le veux, je vais faire ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, c'est trop bien !» Enfin, vous noterez les rajouts personnels que je fais, hein. Trop bien! Ah, on est trop bien, là. Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la nuée, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Écoutez-le. » À cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, tout effrayés. Mais Jésus, s'approchant, les toucha. Et leur dit, et le toucher, c'est le sens le plus réaliste. Hein. L'imaginaire, l'image, ça c'est une distance, si vous voulez. Ah oui, quand vous imaginez des trucs, quand vous imaginez des situations, des conversations, vous êtes dans l'imaginaire. Jésus touche. Ils étaient effrayés, des peurs imaginaires. Vous avez les peurs en ce moment, imaginaires. Jésus vient toucher chaque personne qui a peur en ce moment. Le toucher, ça réveille, si vous voulez. Ça réveille de l'imaginaire. Ça réveille des peurs. Vous voyez ça, frères et sœurs, avec les enfants, avec les personnes âgées. Une personne âgée qui a peur, prenez sa main. Touchez sa main, caressez sa main. Vous allez voir. Elle sera soulagée, apaisée. Jésus s'approchant les toucha et leur dit, le toucher est la parole. Voilà, il y a le toucher d'abord. Parce que quand il y a le toucher et qu'on se laisse toucher, eh bien on se rend plus apte à accueillir réellement la parole réelle de la personne réelle qui nous parle actuellement réellement, vous voyez. Relevez-vous. Et n'ayez pas peur. Oh, c'est magnifique. Jésus vient nous toucher. À nous qui vivons tellement dans un monde virtuel, avec nos peurs imaginaires. Viens nous toucher. Et nous recevons cette parole aujourd'hui comme celle que tu veux nous donner aujourd'hui en nous touchant. Relève-toi. N'ayez pas peur. Relevez-vous. N'ayez pas peur. Et eux, levant les yeux, ouais, parce qu'ils étaient tombèrent sur leur face, hein, tout effrayés. Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus seul. Dans le même passage parallèle, Jésus leur demande de ne rien dire à personne. Avant qu'il ne soit ressuscité d'entre les morts. D'ici là, vous dites rien. Et puis, vous comprenez rien quand je parle de résurrection, mais c'est pas grave. Je vous demande pas de comprendre, mais d'adhérer. Donc, je vais ressusciter, je te l'ai dit, Pierre. Toi, tu m'as dit, je te parle de résurrection, et toi, tu me dis, non, non, il t'arrivera pas ça, Seigneur. Je te dis que je vais ressusciter le troisième jour. Ah oui, non, non, mais Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera point. Je te dis que je serai ressuscité le troisième jour. Hein ? Tu t'as pas écouté jusqu'au bout. T'as retenu que la première partie de ce que je t'ai raconté. Pourquoi ? Parce que tu as accueilli ma parole avec tes peurs. Encore une fois. Suivre quelqu'un qui vous dit, bon, mes amis, on va se faire massacrer. Ben, ça fait peur. Mais s'il vous dit, vous inquiétez pas, je vais ressusciter. Ah ben là, on a moins peur. Ok ? Mais il faut entendre cette parole. Le troisième jour, je vais ressusciter. Pierre, pourquoi t'as pas adhéré à cette parole ? Tu t'es arrêté en chemin ? Prends toute la parole de Jésus. Ne prends pas que ce qui t'inquiète. Non. Relève-toi. N'aie pas peur. Vous voyez bien que, à travers l'expérience de Pierre, bien sûr, c'est chacun de nous. Et puis, il est en train de former son premier pape, le Seigneur Jésus. Le premier pape, on le voit, qui est quand même bousculé dans sa vie, éprouvé même dans son amour. Éprouvé dans sa foi, on l'a vu. Éprouvé dans son amour. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est obligé de passer par le feu, le creuset des épreuves. Lorsqu'on est disciple de Jésus, c'est obligé. Les patriarches sont passés par là déjà, à commencer. Et puis Pierre, si vous voulez, il a une belle-mère, donc apparemment une épouse. Et puis il a des frères, il y a les 12, il y a les disciples. Il y a la famille, tout ce tissu relationnel qui fait que sa vie humaine, relationnelle, n'est pas forcément tout rose, Tiens, comme la nôtre. Et alors, à un moment donné, Pierre, il s'avance vers Jésus et il dit, Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Tic-tac, tic-tac, parce que Jésus, bon, j'en peux plus, hein, de celui-là. Et puis celle-là, moi, oulala. Puis ils me font du mal, ils racontent n'importe quoi, ils me disent que je suis un gourou, que tu racontes n'importe quoi, qu'il va falloir qu'on mange ton corps, qu'on boive son sang. Moi, j'en peux plus, moi. J'en peux plus du regard des autres. J'en peux plus des paroles des autres. J'en peux plus des médisances, j'en peux plus des calomnies. Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois. Alors 7, vous savez, dans la Bible, c'est la plénitude. C'est une manière de dire 7 fois, c'est à chaque fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Oh. Autrement dit, je te demande quelque chose d'impossible. Ah, c'est bon ça. Ah oui, c'est très bon. Parce que tant que l'évangile est à ma mesure, c'est pas l'évangile. Tant que l'évangile est à ma mesure, ce n'est pas l'évangile. Je vais essayer, hein, peut-être une fois. Ça sera déjà bien, hein. Allez, deux. Bon, et puis je vais lui donner les circonstances atténuantes, hein. Ouais, je vais gonfler à bloc le côté circonstances atténuantes, hein. Voilà. Enfance difficile, parents complètement pas faciles, grands-parents n'en parlant pas. Nanani, nanani, je vais gonfler ça à bloc, hein. On dit bon. Non. Est-ce que tu lui pardonnes à ton frère, à ta sœur? Est-ce que tu prononces cette parole, je te pardonne? J'y pense. Avant de dormir, j'y pense. Et je dis à Jésus, bon, tu m'aides, hein? Bon, ce serait bien qu'un jour on y arrive. Aujourd'hui. Aujourd'hui, prenons cette parole à l'égard de ton frère qui t'a fait du mal, de ta sœur, de ta belle-sœur, de ton beau-frère, de ton père, de ta mère, de ton conjoint, de ton enfant. Je te pardonne. Vous comprenez que lorsqu'on est le premier pape, chef des apôtres, il faut passer par la miséricorde. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux. Parce que Jésus est miséricordieux. Impossible d'être disciple de Jésus sans être miséricordieux. Ah oui, mais c'est pas juste le péché, non, c'est une injustice objective. La miséricorde ne supprime pas la justice. Elle la dépasse. Elle assume l'injustice en la dépassant, en allant plus loin que l'injustice. En allant plus loin que la justice. C'est ce que Dieu fait pour nous, à notre égard. Alors que nous étions encore pécheurs, ennemis de Dieu, Jésus est mort pour nous. On le méritait? Non, on méritait la mort. On méritait la condamnation. On méritait la damnation. Dieu n'a pas supporté Est-ce qu'on lui a demandé pardon? Même pas. Même pas. Est-ce que Dieu a attendu qu'on lui demande pardon pour nous pardonner? Même pas. Est-ce que Dieu a attendu qu'on regrette un petit peu, qu'on soit chagrin à son égard, car le péché est une offense à l'égard de Dieu d'abord? Même pas. Parce qu'on était complètement englué dans notre conscience, qui ne voit même pas où est le problème lorsque nous péchons. On ne voit même pas qu'on offense Dieu. Ce qu'on voit, c'est que ça nous embête un peu. Ça nous enquiquine un peu la vie, le fait de pécher, si vous voulez. On sent qu'il y a un truc qui colle pas, qui tourne pas rond, hein? Et on a envie d'aller mieux. Voilà. Donc on n'a pas beaucoup de culpabilité, on n'a pas beaucoup de remords, mais on veut juste aller mieux. Et on est avec la nourriture des cochons, et on se dit quand même, il y a un truc qui cloche. On dit quand même, je suis un être humain, je ne suis pas fait pour manger la nourriture des cochons, la même nourriture que celle des cochons, c'est pas possible. Et puis je me rappelle que chez mon père, il y a quand même la bonne nourriture. Problème, je suis loin de chez mon père, et puis je ne sais pas comment il va réagir. Bon, alors je vais préparer une formule. Père, je ne mérite pas d'être appelé ton fils. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ça, il va aimer, ça. Ah, il va aimer. Et puis, il va dire, bon, ok, allez. Je vais te traiter comme un mercenaire. Je suis prêt à accepter d'être un mercenaire. Moi, fils. Parce que ma justice, à moi, me dit, bon, ben, ok. J'ai raté ma vie de fils. Je me rabats sur une vie de mercenaire. De serviteur. Quelle dégradation! Ça, c'est le péché qui fait ça en nous. On se dit, bon ben, je vais me contenter d'une vie médiocre. Ouais, je suis fils de Dieu, ouais, je suis co-héritier avec le Christ, ok. Mais je me contente d'une vie médiocre. Oui, je sais que Dieu est mon père, mais je suis pas dans sa maison. Oui. Je sais que chez mon père, il y a la fête, la danse, les chants, la nourriture, le bon vin, tout, il y a tout. Mais je vais me contenter d'une petite pièce où j'aurai quelques miettes. Je ne vais pas participer pleinement à la fête, non. Comment retrouver ça? Frères et sœurs, il faut que Pierre, Simon Pierre, fasse l'expérience de son incapacité, de son impuissance. Son impuissance et son incapacité à vivre en régime surnaturel, à vivre en régime évangélique, à vivre à la suite de Jésus. Car si cela relevait de la force humaine, vous comprenez qu'il y aurait quelques vertueux parmi nous qui diraient « Moi j'y arrive, t'y arrives pas toi ? Moi c'est bon, j'y suis. » Et alors on se glorifierait. Non. Pierre va passer par des abîmes de misère et c'est nécessaire pour qu'il expérimente vraiment le salut en Jésus-Christ. Il y aura le lavement des pieds. Très important. Au moment du dernier repas, Jésus se lève, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu. Jésus se lève de table, dépose ses vêtements et prenant un linge, il s'en ceignit. Puis il met de l'eau dans un bassin, il commença à laver les pieds des disciples. À les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vient donc à Simon-Pierre et qui lui dit « Seigneur, toi me laver les pieds ?» Père, toi m'embrasser longuement alors que je suis parti, j'ai claqué tout l'héritage avec les filles. Et tu oses me couper la parole lorsque juste j'allais te dire que ne me traite pas comme l'un de tes fils, mais comme l'un de tes mercenaires. Tu me sers quand même. Tu me couvres de baisers, toi! Alors que j'ai tout perdu, j'ai tout claqué, tu me serres dans tes bras et tu me couvres de baisers. Toi, Seigneur, me laver les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le sais pas à présent. Par la suite, tu comprendras. Pierre lui dit, non, tu ne me laveras pas les pieds jamais. C'est pas possible. Toi, tu es le Seigneur, tu es le Saint, tu es tout pur, tu es le Fils de Dieu, le Fils du Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Alors là, il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Qu'est-ce qui se passe? Pierre lui dit, non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. Et dans l'attitude, dans le regard, et dans la parole de Jésus, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Ah, ça fait craquer. Pierre passe de sa générosité humaine, sa réaction encore bien humaine, à une adhésion profonde de foi surnaturelle. Il craque. C'est beau de voir ça souvent chez Simon-Pierre parce qu'il est un peu comme nous, c'est-à-dire qu'on réagit primo primi, humainement, vous voyez, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles. Et puis, on peut revenir. Non, là, non, ça c'était moi. C'était moi. C'était moi. Pas seulement les pieds. Je veux avoir une part avec toi. La part. Ta part fait mes délices, dit le psaume. Seigneur, viens nous laver. Viens nous baigner, Seigneur, de ton amour. Mais pour accueillir l'amour de Dieu, il faut l'humilité, frères et sœurs. Ce n'est pas magique. Il faut l'humilité. Il faut reconnaître son néant. Il faut reconnaître que sans Dieu, notre vie tombe en ruine. Tant qu'on pense que ça va aller, j'ai un peu de réserve, je suis quand même baptisé depuis tout petit, j'ai quand même hein. Je sais des choses, je pratique des choses, donc je suis inébranlable. Non, tu es inébranlable peut-être, mais c'est que par la force de Dieu. Si tu mets ton espoir dans ta force à toi, en général, il y a un feu de braise avec une femme énervante. Énervante celle-là. Vous voyez. C'est juste après où Pierre va faire des promesses. En sortant du repas, Seigneur, où vas-tu? Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui dit, où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je déposerai ma vie pour toi. Jésus répond, tu déposeras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu me renies trois fois. C'est ce que nous allons voir un petit peu dans la prochaine catéchèse, parce que on l'aime bien, Pierre. Donc on prend le temps, on prend du temps avec lui. Et que le Seigneur, à travers cette catéchèse aujourd'hui, à travers tout ce que nous venons d'entendre, nous transforme profondément et nous enracine dans sa miséricorde. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.